Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Bonjour et bienvenue dans Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes, documentaristes et chroniqueurs du territoire. Je m'appelle Jean Berthelot de l'Aglété. Place aujourd'hui à une carte blanche, ces épisodes liés à des productions journalistiques qui ne sont pas parues chez un de nos partenaires, mais qui ont été réalisés par des journalistes du Grand Sud-Ouest ou qui relatent une réalité du territoire. En l'occurrence, nous nous intéressons à un documentaire qui s'appelle Surveillant, au-delà des murs. Il sera diffusé ce soir lundi 5 avril à 22h55 sur France 3 Nouvelle-Aquitaine et accessible sur le site de la chaîne pendant un mois. Vous êtes sa réalisatrice, bonjour Emma Lebaille.
Bonjour.
Dans ce documentaire, vous suivez des surveillantes et des surveillants de prison en Nouvelle-Aquitaine. Vous évoquez leur fierté, leur peine, leur joie, ce qui fait leur métier. Emma, d'abord, pourquoi avez-vous choisi de réaliser ce documentaire ?
C'est né d'une rencontre, comme la plupart des films que j'ai réalisés, lors d'un blablacar entre Bordeaux et Limoges, où je me suis retrouvée conduite par un homme, Gabriel, qui était surveillant pénitentiaire. Et dans ce genre de situation, on échange la vie des uns des autres. Et en fait, j'ai découvert son métier à cette occasion-là. Et surtout, j'ai découvert la sensibilité et la dimension humaine que j'ignorais complètement, en fait.
Emma, en préparant l'émission, vous avez insisté sur le fait que vous n'étiez pas journaliste et que votre approche était bien celle d'une réalisatrice, d'une documentariste. Dans Podcasting, nous sommes aussi là pour expliquer ces nuances. Alors, est-ce que vous pouvez nous préciser vos pensées sur le sujet ?
Moi, je suis documentariste dans le sens où je porte un regard sur une réalité et c'est un regard qui n'est pas objectif. Je ne suis pas à la recherche de l'information et de la justesse de l'information, même si je reste fidèle à ce que les personnes que je vais faire parler vont me dire. Mais c'est l'idée, c'est de pouvoir trouver un angle différent et ouvrir sur d'autres horizons et pas être dans quelque chose de didactique. Voilà.
Emma, votre documentaire commence, et c'est évidemment volontaire, par des confidences assez inattendues sur la fierté de faire ce métier, sur le sentiment de l'exercer parce que l'on croit à des valeurs. Je dis inattendu parce que, et vos interlocuteurs le disent d'ailleurs, on a souvent l'impression d'un métier vers lequel on arrive sans l'avoir choisi. Certaines des personnes que vous avez rencontrées ne l'ont pas choisi en effet, mais en tout cas elles sont toutes fières de l'exercer ce métier.
Alors, pour certains, effectivement, le fait de l'avoir choisi n'était pas le point de départ, mais ils s'y sont accoutumés et ils y ont trouvé leur place. Et par rapport au fait d'avoir une certaine fierté, l'idée, c'était de montrer que, malgré le fait qu'on ne l'ait pas choisi, on puisse l'exercer avec humanité et qu'il y avait surtout l'idée de déjouer les préjugés et les implicites qu'on peut avoir à l'extérieur. Quand je dis à l'extérieur, c'est hors des murs de la prison, pour la plupart d'entre nous, qui ne connaissons pas en fait ce quotidien-là et qui nous laissons souvent influencer par des notions qui sont assez catégoriques et radicales, ce que j'ai pas du tout découvert moi en les rencontrant et en allant à l'intérieur, parce que j'ai pas filmé dedans, mais j'y suis quand même allée.
Mais pour certains, ils l'ont choisi et ils ne le regrettent pas.
Alors, ils ne le regrettent pas. Effectivement, il y a Nancy qui, elle, le décrit très bien, qui travaille depuis une vingtaine d'années et qui a trouvé sa place parce qu'elle a été dans une relation humaine très forte assez vite avec les personnes dont elle a la charge. An icy wind burns and scars, rushes in like a fallen star through the narrow space between these bars, looking down on prison grows. Without a sound, gonna carry me to where I'm bound, looking down on prison grows.
Parmi les regrets les plus présents, en revanche, on a le sentiment que le manque de reconnaissance pèse très lourd, le manque de reconnaissance à l'extérieur des murs en particulier.
Le manque de reconnaissance, je pense qu'il repose sur le fait que pour la plupart d'entre nous, et je me compte là-dedans parce que j'en faisais partie avant de les rencontrer, on a une idée assez réductrice de ce en quoi consiste leur travail. On a une image négative parce que ce sont eux qui enferment les personnes qui sont détenues, prévenues aussi, hein, parce que les personnes qui sont en maison d'arrêt n'ont pas forcément encore été jugées. Et en gros, c'est eux qui incarnent ce geste qui résume la privation de liberté. Et donc, on les rend responsables de ça, alors qu'en fait, ils sont au bout d'une chaîne. C'est pas eux qui prennent les décisions, c'est notre système qui fonctionne de cette manière-là. Là, eux, ils en sont, on va dire, la concrétisation à la fin. Mais c'est pas seulement des personnes qui ouvrent et qui ferment des portes, c'est aussi des personnes qui accueillent, qui s'occupent, qui sont le lien avec l'extérieur, parfois, qui sont vraiment les seules personnes humaines que les détenus peuvent rencontrer au quotidien, la plupart du temps.
Il y a d'ailleurs quelque chose de très joli qui est dit dans votre sujet, cette femme qui dit « Lorsque j'ai enfermé quelqu'un pour la première fois, ça a été difficile ». Et puis ensuite, je me suis rendu compte que j'étais pas seulement la personne qui fermait la porte, j'étais aussi celle qui les ouvrait. Ça résume assez hein, leurs pensées dans ce qu'on comprend dans votre film. Comment avez-vous choisi justement les personnes qui témoignent dans votre reportage ? Est-ce qu'elles ont accepté facilement de se confier ?
Ça a été un grand parcours. J'ai mis plus de temps à les rencontrer finalement qu'à les filmer. J'ai travaillé pendant près d'un an et demi avant de vraiment rencontrer les personnes qui accepteraient d'être filmées à visage découvert. Parce que c'était ça aussi la contrainte pour moi. Le parti pris, c'était de les montrer, de les faire exister en tant que personnes à l'extérieur, dans notre société, sans leur uniforme. Et les 5 personnes qu'on découvre dans le film sont les 5 seules qui ont accepté que je les filme. J'ai pas fait de casting, j'ai pas choisi. Ça a été des rencontres déterminantes. Et avant de les rencontrer, il y en a beaucoup d'autres que j'ai suivis, que j'ai accompagnés, que j'ai suivis en prison pour certains, pour comprendre comment ça se passait pour eux au quotidien, mais qui n'arrivaient pas à aller au bout de la démarche, par peur de s'exposer, par peur d'exposer leur famille, souvent, d'assumer en fait leur métier à l'extérieur.
Vous venez de le dire, par peur, parmi les sentiments hein, les plus présents dans les témoignages, et sans surprise cette fois, il y a la peur. Elle est omniprésente dans le quotidien des surveillants de prison ?
Alors omniprésente, je sais pas, mais en tout cas, elle arrive assez souvent parce que c'est des métiers qu'on pratique dans l'incertitude des personnes dont on va s'occuper, dans leur manière à elles aussi de réagir. Souvent, ils disent que c'est un peu comme une cocotte minute, ça peut partir en live un peu d'une minute à l'autre. C'est quelque chose voilà, qui peut se comprendre. On prive les personnes de liberté, il y a beaucoup de tensions, il y a beaucoup de difficultés humaines entre les personnes détenues aussi. Elles sont enfermées souvent à 2, voire à 3 dans 9 mètres carrés. Donc concrètement, les surveillants, ils sont, on va dire, en première ligne par rapport à tout ça. Et la peur, elle est pas quotidienne, mais ça peut arriver effectivement qu'ils se sentent fragiles. Et ils ont du mal à l'assumer parce que c'est pas leur rôle. C'est ça aussi l'histoire.
Ce qui peut les conduire à un burn-out, vous évoquez hein, cette question à travers un témoin. C'est une maladie qui touche beaucoup de surveillantes et surveillants de prison.
Alors ça, j'ai pas vraiment de chiffres. Hein. Ça fait peut-être la nuance aussi avec le fait d'aborder les choses de manière journalistique. Moi, je me suis intéressée évidemment aux chiffres. J'ai suivi tout ce qui se passait tout au long de la fabrication de ce film. Je suivais tous les mois les chiffres qui paraissaient sur le site du ministère de la Justice et tous les mois les chiffres augmentaient. Ça a été quelque chose de vraiment incessant. Concernant le burn-out, ce qui est décrit dans le film et ce que Vivien raconte très bien, c'est la pression de vouloir bien faire et en même temps le manque de moyens qui est vraiment là concret sur le nombre de personnes dont un surveillant a la charge et du fait de ce fait-là, leurs gestes sont très répétitifs mais aussi ne leur permettent pas de prendre vraiment du temps avec chaque personne. Ils travaillent vraiment dans des conditions de tension, de temporalité difficile et ils travaillent souvent la nuit aussi. Hein. Il faut savoir qu'ils ont des rythmes qui enchaînent des journées et des nuits qui fait qu'ils ont des conséquences en termes de sommeil et de bien-être qui sont importantes.
Quoi. Et de vie familiale, hein, il est question du divorce notamment, et du fort taux de divorce.
Ouais.
Vous le disiez, il y a la question des moyens. Aujourd'hui, c'est difficile de faire son travail en prison. Et ces moyens, visiblement, ne permettent pas d'avoir un suivi psychologique, c'est ça ? Il y a l'une des surveillantes qui en parle. D'ailleurs, qui est là pour nous entendre ? Quelle est la réponse à cette question ?
Alors, il y a des suivis psychologiques qui sont proposés. J'ai rencontré une psychologue à Bordeaux qui travaille pour la direction interrégionale de la Nouvelle-Aquitaine. La difficulté, encore une fois, c'est d'assumer, d'aller voir quelqu'un et de se faire accompagner, parce que c'est des métiers qui sont quand même très masculins, même si moi je tenais à ce qu'il y ait des femmes dans mon film, c'est quand même une majorité d'hommes qui pratiquent ce métier. Et assumer de se sentir fragile et d'avoir besoin d'aide, que ce soit pour un surveillant ou pour n'importe qui, c'est pas toujours évident. Et là, pour eux, c'est particulièrement difficile parce qu'ils ont besoin de se sentir, de donner cette impression qu'ils sont sûrs d'eux et qu'ils vont tenir le coup.
Justement, oui, vous interrogez plusieurs femmes surveillantes de prison. Contrairement aux hommes, elles peuvent être affectées à la surveillance de personnes du sexe opposé. Est-ce que c'est un milieu particulièrement dur pour elle? Est-ce que, notamment, on vous a parlé de sexisme ou de harcèlement?
Alors, on n'a pas vraiment abordé ces questions-là. Moi, ce que je voulais mettre en avant, c'était vraiment le registre du sensible et la manière dont, humainement, elles arrivaient à trouver leur place dans ces rapports-là avec des personnes, effectivement, souvent de sexe masculin qui peuvent être impressionnants physiquement, beaucoup plus costauds qu'elles. Et la réponse, en fait, c'était à chaque fois user de l'autorité de l'autorité ou essayer de dominer la situation par une attitude radicale, ça n'ouvrait jamais sur quelque chose d'intéressant. Et en fait, leur vraie arme à tous, et c'est une arme dans le sens, un outil quotidien qui permet que les choses se passent bien, c'est la parole, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Les hommes aussi, ils se servent de ça parce que c'est sur la durée, dans le fait de pouvoir échanger faire que les choses se passent le mieux possible. Ils ne peuvent pas être dans l'autorité permanente, c'est pas possible.
Oui, c'est l'art de la diplomatie dont il est question dans cette partie de poker.
Le gardien de prison devient mélancolique. Il aime avec passion une fille angélique.
Mais la fille en question aime un pauvre garçon
qui chante une chanson au fond de la prison. Et le gardien de prison connaît cette musique. C'est la même chanson que la fille angélique chante sur tous les toits au fond de sa maison. Pour le pauvre garçon qu'on a mis en prison.
Plus un milieu est dur et plus on imagine que la solidarité doit être grande pour que les professionnels ne se sentent pas trop mal. Vous avez eu l'impression qu'il régnait une grande solidarité dans ce milieu-là?
Alors parmi les personnes que j'ai filmées, il y a une solidarité parce que certains d'entre eux se connaissent, travaillent dans le même établissement pénitentiaire. Après, c'est comme j'allais dire dans tous les métiers, c'est une question d'affinité, mais il y a quand même quelque chose qui les lie et qui fait qu'effectivement à l'extérieur, ils ont tendance à se côtoyer.
Emma, quelle impression gardez-vous des moments où vos témoins évoquent leurs détenus? On a presque l'impression d'un lien fort avec eux.
Alors ça fait partie des, on va dire, implicites que je voulais lever. On aurait pu penser, et moi encore une fois la première, que les relations étaient d'emblée conflictuelles ou compliquées avec les personnes dont ils ont la charge. Et pourquoi donc on pourrait penser ça? C'est rien ne le justifie. Les personnes qui sont détenues, elles sont souvent dans des situations de vie difficiles. L'arrivée en prison, c'est un moment extrêmement brutal. Certains des surveillants avec lesquels j'ai fait le film travaillent dans un endroit qui s'appelle le quartier arrivant, qui est vraiment un sas entre l'extérieur et l'incarcération. Des liens se nouent, des histoires se racontent, et évidemment en se côtoyant au quotidien, la relation humaine elle existe. Après, elle se passe dans un cadre qui est donné avec des règles très précises. Il y a un code de déontologie qui est très clair concernant les surveillants. Ils n'ont absolument pas le droit d'entretenir de relations à l'extérieur avec une personne qui a été détenue pendant les 5 ans qui suivent la sortie de cette personne. Donc ça, c'est très cadré. Mais après, au quotidien, rien n'empêche qu'ils puissent échanger, qu'ils puissent se raconter. Et les surveillants, ils restent assez discrets sur leur propre vie, mais ils sont aussi très à l'écoute de ce qui se passe en face, ça c'est sûr.
Supposed to be.
Avec le recul, Emma Lebaye, quel sentiment retenez-vous de ce documentaire et des personnes qui témoignent ?
Ben moi, je retiens une confiance vraiment, on va dire, pas absolue, mais j'ai noué des relations fortes avec eux. Je continue à être en relation avec eux, je continue à prendre des nouvelles. Ça a été des vraies rencontres humaines. Et je les admire d'une certaine manière d'assumer ce rôle qui nous arrange bien, nous tous à l'extérieur, compte tenu du système dans lequel on vit. Je ne cherche pas à remettre en question ou à critiquer ou à dans un sens comme d'un autre notre système, mais de manière sous-jacente, il y a quand même l'idée que tel que ça fonctionne aujourd'hui, si ces personnes-là n'existaient pas et ne pratiquaient pas leur métier sur cette veine-là de l'humain, ce serait beaucoup plus compliqué. Après, j'ai bien conscience, et j'en ai parlé avec certains d'entre eux, il y a des dérives parfois parmi certains de leurs collègues, c'est quelque chose qui existe, et malheureusement, mais c'est comme plein d'autres domaines dont on peut parler, mais c'est pas la majorité. Et en fait, l'idée du film, c'était de les faire exister, eux, comme ceux qui font leur travail avec une certaine conscience humaine.
Avec une parole très forte d'ailleurs d'un surveillant à un moment qui dit que quand un surveillant fait bien son métier, c'est un outil de réinsertion puissant pour un prisonnier.
Alors ça fait partie de leur mission, hein. En tant que surveillant, ils sont là pour surveiller et accompagner la réinsertion. Là, en termes de moyens, c'est vraiment très très compliqué parce qu'ils ont pas beaucoup de moyens. Après, il y a d'autres corps de métier qui interviennent en prison. Il y a les conseillers d'insertion et de probation, justement. Mais les surveillants, eux, ils sont vraiment là pour essayer de faciliter les choses. C'est eux qui s'occupent de la distribution du courrier, donc ils sont au courant de l'avancée des dossiers quand les jugements n'ont pas encore eu lieu. Donc en fait, ils sont au courant de beaucoup, beaucoup de choses. Et c'est aussi ça qui fait qu'ils sont dans une relation de confiance avec la plupart des détenus dont ils s'occupent. Même si, encore une fois, ça peut être compliqué, ça peut être conflictuel. Leur fil rouge à eux, c'est de faire en sorte que ça se passe le mieux possible pour tout le monde.
Merci beaucoup, Emma Lebaye, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle le titre de votre documentaire, Surveillant au-delà des murs. Il sera diffusé ce soir, lundi 5 avril, à 22h55, sur France 3 Nouvelle-Aquitaine et accessible sur le site de la chaîne pendant un mois. C'est la fin de cet épisode de podcasting. Production Anne-Charlotte Delange, Juliette Chénion, Clara Etchari, Lisa Feignet, Marion Riault et Guillaume Cascara. Iconographie Magali Marico. Programmation musicale Gabriel Taïeb et réalisation Olivier Duval. Si vous aimez Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux, ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute, dont Spotify, Apple Podcasts ou Google Podcasts. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.